Et le voilà, le journal de 8h. Marc Fauvel, bonjour.
Bonjour à tous. À la une ce matin, a-t-il vraiment agi seul? La compagne et un ami de Radouane Lakhdim, le terroriste de l'Aude, ont vu leur garde à vue prolongée hier soir. Compagne qui était fichée S, elle aussi, on l'apprend à l'instant. Quant au gendarme Arnaud Beltrame, mort en héros en prenant la place d'une otage, un hommage national lui sera rendu dans les jours qui viennent aux Invalides à Paris. Et alors que la classe politique se divise, la droite et l'extrême droite accusent Emmanuel Macron de passivité face à la menace terroriste, eh bien on ouvre le débat dans 20 minutes, Nicolas, avec votre invité.
Oui, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, Christian Jacob, pour le grand entretien de la matinale de 8h20 à 8h40. Amis auditeurs, vous aurez la parole vers 8h35. Appelez-nous dès maintenant au 01 45 24 7000.
Dans ce journal également, sa cavale s'est arrêtée hier en Allemagne car Carles Puigdemont, l'ancien président catalan, a passé la nuit en prison. C'est un juge qui doit maintenant décider de son éventuelle extradition vers l'Espagne. Aux États-Unis, l'actrice et le président, une star du X, accuse Donald Trump d'avoir cherché à la faire taire, après une relation entre eux en 2006. En France, les premiers chèques énergie qui arrivent aujourd'hui dans les boîtes aux lettres, 4 millions de foyers sont concernés, de plus en plus de places en crèche, enfin une bonne nouvelle pour les parents, et puis les Bleus qui se cherchent un patron après la claque face à la Colombie, et avant d'aller affronter la Russie demain en match amical. Son nom, son visage s'affiche partout depuis 3 jours, depuis qu'il a donné sa vie pour en sauver une autre. Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, qui a pris la place de la dernière otage du supermarché de Trèbes vendredi face aux terroristes, aura donc les honneurs d'un hommage national dans les jours qui viennent. Cérémonie aux Invalides à Paris, d'après Le Figaro, en présence d'Emmanuel Macron, qui devrait aussi prononcer l'éloge funèbre du gendarme. Mais avant l'hommage de la nation, il y a le souvenir de ses proches, souvenir douloureux de celui de son frère Damien Beltrame, qui s'est confié hier soir à nos confrères de TF1.
Il était extrêmement courageux, il a quand même fait ce qu'il devait faire en tant que gendarme, en tant que militaire, peut-être aussi en tant qu'homme, mais dans tous les cas, il l'a fait. Sa vocation première, c'était le bouclier de la nation, quoi, le bouclier des gens, c'était le gendarme, le militaire, vraiment dans son sens le plus noble. Moi, j'ai déjà entendu Arnaud dire que oui, il pourrait donner sa vie pour la patrie, en fait. Moi, je suis hyper ému, en fait, quand je vois tous les messages que j'ai reçus, bien sûr, de gens que je connais et de gens que je connais pas. J'ai reçu des milliers de messages, quoi. Donc, c'est un soutien, ça permet aussi de comprendre que tout ça n'a pas été vain.
Voilà, ça n'a pas été vain, dit le frère du gendarme assassiné par le terroriste. L'autopsie a révélé que le lieutenant-colonel avait été poignardé à la gorge. L'enquête maintenant avec vous, Sophie Parmentier, bonjour.
Bonjour.
Elle se concentre toujours sur le parcours du terroriste Radouane Lakhdim, dont on sait qu'il était fiché S depuis 2014. Y a-t-il eu faille, raté ou négligence dans sa surveillance?
Alors, ce qui est sûr, c'est que Radouane Lakhdim avait en effet cette fameuse fiche S pour atteinte à la sûreté de l'État, comme plus de 20 000 autres personnes en France. Tous les fichés S ne le sont pas pour leur lien avec l'islam radical, même si c'est l'énorme majorité. Et au moment où il est accroché avec cette fiche S, en 2014, Radouane Lakhdim a 21 ans. Il a été condamné à une peine de prison avec sursis 3 ans plus tôt pour port d'armes prohibées. Sa fiche S est établie pour ses liens avec la mouvance salafiste de Carcassonne, mais elle n'est, comme toute fiche S, qu'un moyen de se renseigner sur lui discrètement en cas d'arrestation. Elle n'est en rien un suivi effectif. Le suivi effectif, comme l'a précisé le procureur François Molins, a eu lieu en 2016 et 2017. 2016, Radouane Lakhdim, condamné une nouvelle fois par la justice, cette fois pour usage de stupéfiants, a purgé sa peine à 1 mois de prison. Et en 2016, les policiers du renseignement le surveillent alors de plus près. Il y a un suivi du renseignement territorial qui surveille les profils les moins inquiétants, et puis de la DGSI qui traite les profils les plus radicalisés. Mais aucun signe précurseur d'un passage à l'acte n'avait été mis en évidence par les policiers.
Sophie Parmentier, la compagne de Radouane Lakhdim et l'un de ses amis sont toujours en garde à vue ce matin, garde à vue prolongée hier soir. Est-ce qu'on peut vraiment toujours parler d'un acte isolé?
Alors en tout cas, même si le terroriste a tiré seul, comme pour tout attentat, les enquêteurs se posent la question des complicités. C'est le 3e jour de garde à vue qui commence pour sa compagne. Elle est âgée de 18 ans. On apprend ce matin qu'elle était fichée S et elle manifeste des signes très clairs de radicalisation. Et puis, un ami de Radouane Lakhdim, un mineur de 17 ans, est toujours interrogé lui aussi. Les policiers antiterroristes cherchent à savoir si les deux jeunes gens ont pu aider Radouane Lakhdim à projeter son attentat. Ont-ils participé avec lui à sa préparation? C'est leur objectif, trouver des complices éventuels. Un éventuel donneur d'ordre aussi sur les réseaux sociaux. On sait que Radouane Lakhdim était très actif sur ses réseaux sociaux et son téléphone et son ordinateur sont toujours ce matin en cours d'analyse.
Merci Sophie Parmentier. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin après cette attaque qui a fait 4 morts et 16 blessés. Enfin, ce n'est sans doute que la première, mais la ville d'Alès dans le Gard annonce qu'elle va baptiser un square au nom d'Arnaud Beltrame. Elle le fera symboliquement le jour de l'hommage national.
Il est 8h05 aux États-Unis. Marc, encore un témoignage embarrassant pour Donald Trump.
Oui, pour une fois que ce n'est pas l'affaire russe qui empoisonne la Maison Blanche. Cette fois, c'est une star du porno qui est venue raconter en prime time à la télévision la liaison qu'elle aurait eue avec Donald Trump en 2006, liaison extra-conjugale. Elle affirme que Donald Trump lui aurait fait miroiter une place dans son émission de télé-réalité et qu'elle aurait ensuite été menacée physiquement lorsqu'elle a voulu raconter cette relation. Gregory Phillips.
Face au journaliste Anderson Cooper, Stormy Daniels décrit la relation qu'elle a eue avec Trump en juillet 2006 en marge d'un tournoi de golf, une seule relation sexuelle avec celui qui n'était encore qu'un magnat de l'immobilier et un animateur de télé-réalité. Mais ce qu'on retient de cette interview, c'est quand l'actrice de film X raconte comment on a tenté de la faire taire. Elle affirme notamment avoir été menacée au printemps 2011 à Las Vegas.
J'étais dans un parking, j'allais à mon cours de sport avec ma fille à l'arrière. Un gars s'est approché et m'a dit « Laisse Trump tranquille, oublie toute cette histoire. C'est une très jolie petite fille, ce serait vraiment dommage que quelque chose arrive à sa maman. »
Finalement, en octobre 2016, 11 jours avant l'élection présidentielle, Stormy Daniels signe un accord de confidentialité avec l'avocat personnel de Trump, Michael Cohen, qui lui fait un chèque de $130 000 pour que l'actrice ne raconte pas ce qui s'est passé 10 ans plus tôt. Or, le versement de cette somme peut être considéré comme un financement illégal de la campagne du candidat Trump. Celui-ci a toujours nié cette relation. L'avocat du président lui a fini par reconnaître le versement de cette somme. Quant à Stormy Daniels, voici ce qu'elle répond au journaliste de 60 Minutes. Le président regarde 60 Minutes. S'il regarde ce soir, que lui diriez-vous ?
Il sait que je dis la vérité.
Washington, Gregory Phillips, France Inter.
Un bilan terrible en Sibérie où un centre commercial a pris feu hier alors que des milliers de clients y faisaient leurs courses. L'incendie s'est déclenché dans une salle de cinéma avant de se propager dans les rayons de la grande surface. Il y a 53 morts et une quinzaine de disparus d'après un dernier bilan. Des manifestations et des incidents hier soir en Catalogne où des milliers d'indépendantistes catalans sont descendus dans la rue pour crier leur colère après l'arrestation de leur leader et ancien président du Parlement régional Carles Puigdemont. Parti se réfugier en Belgique il y a 5 mois, c'est en Allemagne qu'il a été arrêté hier alors qu'il rentrait de Finlande où il avait rencontré des parlementaires et participé à un colloque. Il sera présenté ce matin à un juge en vue d'une possible extradition vers l'Espagne qui veut toujours le juger pour sédition. Bonjour Cyril Sauvageau.
Bonjour.
En direct de Berlin, où on commence déjà à se demander si Puigdemont ne sera pas un prisonnier très encombrant.
Et le silence des autorités allemandes en dit long. Pas un mot du gouvernement depuis hier, depuis l'arrestation de Carles Puigdemont et son placement en garde à vue. Un seul mot d'ordre, c'est à la justice de faire son travail. La procédure d'extradition n'a pas encore commencé, elle pourrait prendre jusqu'à 2 mois. Mais déjà cette affaire embarrasse et divise le pays. D'un côté, les conservateurs de la CDU souhaitent une extradition rapide. De l'autre, l'opposition de gauche réclame la libération immédiate de l'ancien dirigeant catalan et s'interroge ouvertement sur cette opération. Opération de police planifiée, semble-t-il, avec l'aide des services secrets espagnols. Pour la presse ce matin, le drame catalan vient de faire irruption en Allemagne. Nous avons notre premier prisonnier politique, déplore la Süddeutsche Zeitung, pour qui cette arrestation au service de Madrid est une très mauvaise idée. Enfin, le quotidien Handelsblatt observe avec ironie que la coopération européenne semble plus efficace quand il s'agit d'arrêter un homme politique qui dérange que pour faire la chasse aux terroristes.
Merci Cyril Sauvageau en direct de Berlin. L'arrestation en Allemagne de Puigdemont qui provoque également la colère des indépendantistes corses, Corsica Libera. Le mouvement de Jean-Guy Talamoni dénonce des pratiques, je cite, dignes de la Gestapo. Pas de suspense en Égypte où le président sortant Al-Sissi devrait être réélu dans un fauteuil à l'issue de la présidentielle qui débute aujourd'hui. Le vote dure 3 jours, mais le résultat ne fait aucun doute. Les Égyptiens n'auront le choix qu'entre 2 candidats, Al-Sissi d'un côté et l'un de ses partisans de l'autre. Envoyé spécial de France Inter au Caire, Christian Chéneau.
Dans les rues du Caire, on ne voit que lui, le portrait du président Abdel Fattah Sissi est placardé partout. Des affiches géantes proclament qu'il est l'homme de l'espoir, l'incarnation du rêve égyptien. Au niveau politique, il a fait le vide autour de lui. Le président Sissi a organisé une élection taillée sur mesure. Son seul adversaire, un certain Moussa Mustapha Moussa, est en fait un de ses partisans. À longueur de journée, les chaînes de télévision chantent les louanges du raïs égyptien. Mais au-delà de ce matraquage médiatique, Abdel Fattah Sissi jouit encore d'une popularité incontestable chez les Égyptiens. On lui reconnaît une volonté sincère de moderniser le pays. Jamais depuis Nasser, autant de chantiers d'infrastructures n'ont été lancés en si peu de temps. Et puis, on salue son honnêteté et sa droiture. Beaucoup d'Égyptiens, notamment les Coptes et les femmes, voient en lui le seul rempart contre les islamistes. Mais en bâillonnant les voix discordantes, le président Sissi donne l'image d'un pouvoir qui se durcit et s'isole. Le Caire, Christian Chesneau, France Inter.
Il est 8h10, il arrive, Marc, à partir d'aujourd'hui dans les boîtes aux lettres de 4 millions de Français.
C'est le nouveau chèque énergie qui remplace les tarifs sociaux du gaz et de l'électricité. Le dispositif a été testé dans plusieurs départements. Il entre en application dans toute la France désormais et doit permettre aux Français les plus modestes de régler une partie de leur facture énergétique. Delphine Simon.
Ce chèque d'un montant de 150 euros en moyenne, vous le recevrez chaque année par la Poste. Aucune démarche pour en bénéficier, contrairement aux tarifs sociaux de l'énergie. Il vous est adressé directement sur la base de votre déclaration d'impôt. Il est donc nécessaire d'en faire une, même en l'absence de tout revenu. Le montant varie selon le revenu fiscal de référence et la composition du foyer entre 48 et 227 euros. C'est le maximum pour un couple avec deux enfants qui déclare 10 000 euros par an. En pratique, ce chèque énergie est libellé à votre nom, mais il n'est pas encaissable dans votre banque. Il vous permet de régler directement votre fournisseur d'énergie, que ce soit pour du gaz, de l'électricité, du fuel domestique ou d'autres combustibles de chauffage comme le bois ou la biomasse. Il peut aussi servir à régler des travaux de rénovation énergétique. Un dispositif qui vise à simplifier les démarches, mais qui est bien loin de couvrir les besoins réels. L'Observatoire de la précarité énergétique rappelle que la dépense d'énergie d'un ménage précaire pour son logement est de 1925 euros par an.
Cela n'était plus arrivé depuis 10 ans. La France est repassée sous les 3% de déficit l'an dernier. Confirmation ce matin de l'INSEE. Le déficit s'est établi en 2017 à 2,6% du PIB. La politique, deux élections législatives partielles hier. Dans les deux cas, ce sont les députés sortants dont l'élection avait été invalidée qui ont été réélus. À Mayotte, la candidate sans étiquette soutenue par La République En Marche, Ramlati Ali, l'emporte avec 55% des voix. Dans le Loiret, c'est le candidat des Républicains, Jean-Pierre Door, qui retrouve son siège, 67% des suffrages.
Et c'est un casse-tête pour de nombreux parents. Comment faire garder son tout petit ?
Depuis des années, la France manque cruellement de place en crèche, mais la situation est enfin en train de s'améliorer. 16 000 projets financés l'an dernier, c'est un bond de plus de 30% en un an. Illustration et reportage à Paris, Charlotte Jousserand.
Cortège de poussettes et de roulettes à l'entrée de la crèche associative Sainte-Amélie. Avant d'obtenir une place ici pour sa fille, Aïcha s'est démenée.
Ah, la crèche, c'est vraiment le parcours du combattant, le vrai parcours du combattant. Ah, c'est catastrophique.
Un an d'attente pour Stéphanie aussi, expérience opposée pour Simon.
Gros coup de chance, quoi. On a tiré le gros lot à la loterie.
Tout s'est joué en 3 semaines pour son fils.
Il est né avec 3 semaines d'avance, donc on s'est permis de rappeler la crèche pour dire qu'il était en avance. Ça faisait un peu piqûre de rappel. Puis on avait une place. C'était une chance sur deux ou une chance sur 3, mais bon.
La crèche Sainte-Amélie s'est agrandie de 20 places, ce qui explique peut-être que le cas de Pierre s'est débloqué.
On a 3 gamins et les 2 premiers, on n'a pas eu de place. Donc le 3e, on l'a tenté en se disant que, enfin, je sais pas, il y avait un effet cumulatif ou je sais pas quoi, et on a eu une place.
Au-delà de l'exemple de leur plus ancienne crèche, la fondation de la Croix Saint-Simon pousse les murs depuis 3 ans. Isabelle Bouvier, directrice générale.
On a eu 30% d'augmentation en nombre de places proposées aux familles.
1500 enfants accueillis aujourd'hui, 168 postes créés en partenariat avec la mairie de Paris et la CAF, mais il y a encore des demandes.
Selon les arrondissements, il y a encore des endroits où il y a des demandes fortes, une mobilisation donc des pouvoirs publics pour aider, y compris le secteur associatif, pour engager dans la construction de places.
Et d'ici mars 2020, la fondation de la Croix Saint-Simon compte ouvrir 5 nouvelles structures à Paris.
À Montpellier, il n'y aura pas de cours aujourd'hui à la fac de droit, fermée sur décision de son président après les incidents de la fin de semaine dernière. Des étudiants qui occupaient un amphithéâtre ont été délogés manu militari par un commando d'hommes cagoulés et armés de bouts de bois. Le doyen, qui s'était félicité de cette évacuation musclée, a dû démissionner. Hier encore, un face-à-face a opposé 200 militants antifascistes à un groupe identitaire d'une trentaine de personnes. Enfin, le SIDAction continue de faire recette. Il s'est achevé hier soir sur des promesses de dons en hausse. 4,4 millions d'euros, c'est presque 10% de plus que l'an dernier pour aider la recherche et les malades. Le 110, le numéro de téléphone gratuit pour faire un don, lui, reste ouvert jusqu'au 14 avril.
Et à 8h14, les Bleus, Marc, les Bleus décollent ce matin vers la Russie.
Direction Saint-Pétersbourg où ils affronteront la Russie. Demain en match amical, les Bleus vont tenter de se racheter après leur faux pas face à la Colombie. Vendredi, défaite 3-2. Et l'une des clés, Sébastien Hazard, c'est peut-être de se trouver enfin un leader, un patron capable de motiver les troupes.
Il va bien falloir faire avec. Les Bleus ne vont pas d'un coup de baguette magique se trouver un leader charismatique vers qui se tourner sur le terrain quand ça tangue. Mais pour Olivier Giroud, l'attaquant des Bleus, c'est un faux problème.
Je pense que c'est à chacun de prendre ses responsabilités. C'est sûr qu'il n'y a pas de grand aboyeur sur le terrain, mais en tout cas, quand il faut se dire les choses au sein du groupe, on le fait.
L'attaquant tricolore évoque un problème d'implication très ponctuel sur ce match et plaide pour ne pas tout remettre en cause après seulement une deuxième mi-temps loupée. D'ailleurs, Hugo Lloris fait bien son boulot de capitaine, mais vu son poste, gardien de but, il est forcément physiquement assez éloigné de ses coéquipiers durant la rencontre. Sans prendre le brassard, un autre joueur pourrait avoir un rôle plus important, Antoine Griezmann. Mais ce n'est pas forcément ce que souhaite l'attaquant de l'Atlético de Madrid.
C'est souvent les mêmes questions en conférence de presse, si je suis le leader, si je suis le patron, mais ça ne m'intéresse pas.
Après, Olivier Giroud le rappelle, pour le Mondial, il faudra surtout être capable de trouver des réponses collectives.
Avoir cette capacité à serrer les coudes et à être fort dans la tête.
Ne pas lâcher prise lorsque la situation se complique, la base pour exister au plus haut niveau, et là c'est vrai, pas besoin d'un homme providentiel.
Enfin, après les Bleus, Nicolas, voici des nouvelles du petit jaune. Ricard lance aujourd'hui son tout nouveau pastis. Ça s'appelle le Ricard Plante Fraîche. La badiane, figurez-vous, y est remplacée par du fenouil aromatique cueilli et distillé en Haute-Provence, s'il vous plaît. Il s'agit de concurrencer le Spritz et le Mojito, devenus les stars de l'apéro. La nouvelle recette sera 20% plus chère. Mais quand on aime les plantes fraîches comme vous, Nicolas, ça n'a pas de prix.
Oui, en fait, c'est un légume.
Vive les plantes fraîches,
c'est
voilà.
Un légume, c'est pas une
ça,
boisson.
Ça compte comme un légume.
Exactement. Merci Marc Fauvel. Il est 8h16.